avec vous.
VOA Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité ici aux États-Unis. Les Américains célèbrent ce 4 juillet le 242e anniversaire de la proclamation de l'indépendance de leur pays à l'égard de la Grande-Bretagne. Ce jour férié est marqué par des pique-niques, des défilés et des feux d'artifice. Jean-Roger Bion nous en dit plus.
Oui, le président des États-Unis Donald Trump et son épouse Melania donneront l'exemple avec un pique-nique pour les familles des militaires à la Maison-Blanche. La fête du 4 juillet inclut une lecture traditionnelle de la Déclaration d'indépendance sur les marches des Archives nationales à Washington. À l'intérieur du bâtiment, le document original est mis à la portée des visiteurs, ainsi que la Constitution et la Déclaration des droits. Il y aura ensuite un défilé militaire sur Constitution Avenue, dont le point de chute est le Washington Monument, dédié au premier président américain George Washington. Il est prévu également un concert au Capitole avec entre autres l'Orchestre Philharmonique National et des groupes ou des artistes comme les Beach Boys, Chita Rivera, Andy Grammer, les Temptations et Cici Winans. La célébration se terminera par un énorme feu d'artifice après le coucher du soleil.
États-Unis toujours, le Soudan dit déplorer la nouvelle mise en garde de Washington aux voyageurs exhortant les citoyens américains à ne pas se rendre en territoire soudanais en invoquant des attaques potentielles de groupes terroristes contre les étrangers. Le nouvel avertissement du département d'État a été publié lundi sur le site de l'ambassade des États-Unis à Khartoum. Il remplace un précédent message émis en octobre 2017, quelques jours après la levée par Washington de sanctions commerciales imposées au Soudan depuis 1997. Au Soudan du Sud, le gouvernement sud-soudanais a présenté au Parlement une loi prolongeant de 3 ans le mandat des autorités de transition, dont celui du président Salva Kiir. Cette décision intervient dans un contexte de pourparlers de paix entre le gouvernement et les rebelles de Riek Machar. Irénée Herman Ungbo fait le point.
Une première mouture du test a été adoptée hier par les députés sud-soudanais. Le test doit être envoyé au Parlement pour une seconde lecture d'ici à 30 jours. Le Soudan du Sud est depuis 2015 dirigé par des autorités de transition pour l'exécutif et le législatif sur la base de l'accord de paix de la même année. Leur mandat expire en août 2018 et la prolongation est nécessaire pour éviter un vide institutionnel. L'opposition parlementaire approuve la procédure, mais pour un député sous couvert de l'anonymat, ces amendements montrent que le gouvernement et le chef de l'État Salva Kiir ne seront pas prêts à signer un accord de paix avec les rebelles. La semaine dernière à Khartoum, Salva Kiir et Riek Machar se sont mis d'accord pour un cessez-le-feu permanent. Mais peu après, les rebelles de M. Machar ont accusé les troupes gouvernementales d'avoir attaqué une de leurs positions. Jusque-là, aucun camp n'a annoncé son retrait des pourparlers en cours.
Au Mali, les corps de 19 personnes perdues dans le désert ont été retrouvés dans la région de Taoudeni, dans l'extrême nord du pays. Les victimes revenaient d'Algérie, selon notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Ils étaient 19 personnes dans un véhicule de transport quittant Bouaje El Mokhtar du côté algérien pour Tombouctou au Mali. Depuis 10 jours, ils étaient perdus dans le désert malien et ont été retrouvés morts de soif le samedi dernier près de Arawan. Certaines des victimes partaient pour rendre visite à leur famille. Une jeune dame était avec 2 enfants. Elle était partie se soigner en Algérie. Dans le lot, il y a aussi des candidats à l'immigration de retour au Berkaï. C'est un vas de sable qui a éloigné la direction du véhicule et le chauffeur continuait de rouler alors qu'il a fait 40 à 100 km de route sans aucun point d'eau. Les parents des voyageurs ont fait 2 semaines sans nouvelles et le bus était stationné à quelques 140 km de Tombouctou, ville dans le désert d'Arawan. Parmi les victimes, il y a 2 femmes et 7 enfants. Ils ont été enterrés le même jour dans le bus. Les objets qui ont été récupérés sont des sacs de voyage, des téléphones portables et une importante somme d'argent. C'est grâce à une caravane de commerçants de Taoudeni que l'information de leur disparition a été remontée au niveau régional. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, deux semaines après les inondations qui ont affecté la capitale économique Abidjan, l'aide en faveur des sinistrés s'organise. Des centres d'hébergement ont été mis en place par les autorités et des bénévoles. Notre correspondant à Abidjan, Georges Ibrahim Tonkara, s'est rendu dans l'un de ces centres.
Nous sommes à l'école primaire Kwadio Asaoré à la Riviera Palmeraie, dans l'est d'Abidjan. Une école improvisée en centre d'hébergement au lendemain des inondations qui ont fait 20 morts dans le pays, dont 18 à Abidjan. Ici, certains sinistrés ne sont pas contents de leurs conditions de vie. C'est le cas de Dil Ivo.
L'eau a pris ma maison, tout est gâté dans l'eau, il n'est rien reçu. C'est la souffrance. Et si là, mes enfants, elle a souffrance, ça ne va pas chez moi.
Comment vous faites pour vivre?
Bon, je me débrouille. Il y a un peu qu'il donne là, il mange. Il n'est pas nat, il n'est pas matelas. Donc moi, il me débrouille à côté de mes voisins pour dormir.
Mais qu'est-ce que vous souhaitez?
Je souhaite, monsieur le président, il n'a qu'à m'aider. Me donner l'argent, faire le commerce. Prendre maison pour vivre.
D'autres par contre apprécient l'aide des autorités et des ONG qui chaque jour leur apportent vivres, vêtements et médicaments. Mais ces sinistrés souhaitent quitter les lieux. Brigitte Kanga, 29 ans et mère de 3 enfants.
Ils prennent soin de nous, c'est pas très bien. Mais pour le moment, c'est l'endroit où on va aller. Et pour le moment, c'est ça qui est difficile. Parce qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas reçu l'argent. Nous aussi, on n'a pas d'argent pour prendre une maison. Si au moins, ils peuvent trouver au moins un peu d'argent pour nous donner, pourquoi on va aller trouver un peu maison, rester en dessous.
Alors, mais ici, est-ce que les conditions, ça va? Vous mangez bien, vous dormez bien? Est-ce que vous êtes à l'aise ici?
Bon, on dort bien, on est à l'aise. Moi, j'ai 3 enfants. Il y a un qui a 7 mois, et puis l'autre a 6 ans, l'autre a 8 ans, l'autre a 10 ans.
Et les enfants, il n'y a pas trop de soucis, ça va?
Bon, on fait comment? Même s'il y a des soucis, on est obligé de rester.
Un nouveau-né a vu le jour dans ce centre d'accueil. Son père, Silue Arduma, a vu sa maison détruite par les eaux. Son vœu, se trouver vite un nouveau logement.
Si tu me vois ici, là, c'est l'argent, il y a besoin, il prend de l'argent pour pouvoir quitter ici avec ma femme, pour aller prendre ma maison.
Dans ce centre vivaient plus de 500 sinistrés, issus de 139 familles. À notre passage à ce week-end, il ne restait plus qu'une cinquantaine de personnes, essentiellement des femmes et leurs enfants. De nombreux sinistrés attendent l'aide du gouvernement pour quitter les différents centres d'hébergement et se trouver un logement. Les 150 000 francs CFA promis par le gouvernement est déjà versé à certains d'entre eux sont jugés insuffisants. Georges Ibrahim Tonkara, VOA Afrique, Abidjan.
Guinée équatoriale, un opposant au régime du président Théodoro Obiang-Nguema, emprisonné pour sédition, est mort lundi des suites de torture à la prison d'Evinayong dans le centre du pays. C'est ce qu'affirme son parti, la formation d'opposition citoyen pour l'innovation. Selon un communiqué du parti, Juan Obama Edu a succombé après les tortures que lui a infligées le commissaire de police d'Akonibé, ville du sud-est de la partie continentale de la Guinée équatoriale. Les autorités militaires et le directeur de la prison d'Evinayong ont refusé que le prisonnier reçoive des soins, a précisé Citoyen pour l'innovation, formation qui a été interdite et dissoute en février. En Ouganda, des opposants, journalistes, membres du clergé et aussi des féministes préconise le retrait de la taxe sur l'utilisation des réseaux sociaux. Cette mesure entrée en vigueur dimanche dernier soulève un véritable tollé dans le pays. Morgane Guiriec.
Des jeunes citoyens ougandais, dont des journalistes, juristes, comédiens, étudiants ou membres du clergé, menacent de mobiliser le pays si la taxe n'est pas levée d'ici à vendredi midi. Pour la militante féministe Edna Ninsima, cette taxe est insensée et piétine la liberté d'expression. Depuis dimanche, les utilisateurs des réseaux sociaux doivent s'acquitter d'une taxe quotidienne de 200 shillings, l'équivalent de 5 cents, pour accéder à WhatsApp, Facebook, Twitter et des sites de rencontres comme Tinder ou Grindr. Les utilisateurs doivent composer un code qui soustrait la somme de leur crédit de l'Internet mobile. En mars, le président Yoweri Museveni, qui a lui-même 850 000 abonnés sur Twitter, avait écrit au ministère des Finances pour lui demander d'introduire une nouvelle taxe pour lutter contre les conséquences du bavardage en ligne.
Zimbabwe, l'armée zimbabwéenne a nié catégoriquement ce mercredi faire campagne pour le président Emmerson Mnangagwa et son parti au pouvoir, la ZANU-PF, en vue des élections générales du 30 juillet. Accusation formulée par l'opposition. L'actuel chef de l'État parle largement favori à la présidentielle face à une opposition divisée et orpheline de son chef historique Morgan Tsvangirai, décédé en février. Et pour terminer, Coupe du monde de football, après 56 matchs joués sur 64 programmes, le Mondial 2018 en Russie s'offre 2 jours de de repos ce mercredi et jeudi. La compétition reprendra vendredi avec le match France-Uruguay à Nijni Novgorod à 14h temps universel en quart de finale. Le Brésil affronte la Belgique à Kazan le même jour à 18h temps universel.